Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Radio Campus Tours en direct des Assises du journalisme. Et on va parler de la liberté de la presse en France, puisque la liberté de la presse dans le monde semble tout de même reculer. On va se poser la question de savoir où en est-on en France. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Azilise, qui est journaliste à La Nouvelle République et qui est membre du SNJ, du Syndicat National des Journalistes. Et puis pour poser toutes ces questions, nous recevons sur ce plateau... nous recevons Elena et Salomé. Alors Elena qui fait partie de Radio MNE. Voilà, bonjour Elena. Bonjour et merci d'être sur ce plateau. Et on reçoit aussi Salomé qui fait partie de Radio Campus Orléans. Alors on a aussi sur le plateau, qui reviennent en fait sur ce plateau, trois jeunes qui sont accueillis par l'association Utopia 56. Je vais vous laisser vous présenter tous les trois.
Bonjour, moi c'est Baldé Alpha Omar, j'ai 15 ans, je suis arrivé en France le 31 décembre et je suis également été accueilli par Utopia 56.
Bonjour, moi c'est Mamadou, j'ai 16 ans, je suis venu ici le 10 2005.
Et donc vous êtes tous les trois d'Utopia 56 et on va parler donc de la liberté de la presse en France. Alors peut-être pour commencer, je vais laisser Azilise nous expliquer tout simplement ce que c'est le SNJ.
Bonjour à tous. Le SNJ, Syndicat National des Journalistes, c'est une des organisations représentatives des journalistes salariés. Donc on est présent dans le plus d'entreprises de presse possible pour pouvoir défendre tout simplement au quotidien, dans les rédactions, les droits des journalistes. Alors que ce soit leurs droits en tant que salariés, sur les salaires, la revendication des droits d'auteur, des choses comme ça, du temps de travail, de conditions de travail. Et puis aussi, c'est peut-être la particularité de notre syndicat, c'est qu'on va être forcément sur la défense du métier, donc la défense de la presse, ça va être aussi la défense de sa déontologie, de son libre exercice, etc.
Alors peut-être Elena, je vais te laisser commencer.
Yes, merci. Et bonjour de ma part aussi. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Donc du coup, en 2022, la France est arrivée à la 26e place sur les 180 pays du monde en ce qui concerne la liberté de la presse. Par rapport aux résultats de l'année dernière, quand la France était à la 35e place, la situation s'est un peu améliorée. Mais il est évident que ça pourrait être encore mieux. Comment voyez-vous ce placement? Est-ce que c'est dur? Est-ce que vous trouvez qu'on avance suffisamment vite?
Instinctivement, je répondrai non. Le classement dont vous me parlez, j'imagine que c'est celui de RSF, mais j'en suis pas extrêmement sûre. La place catastrophique qu'avait déjà la France l'année dernière, et cette remontée pourrait s'expliquer tout simplement par... une chose simple qui a été les mouvements sociaux, en particulier des réformes de la travail et des gilets jaunes ensuite, où on a vu des répressions de manifestations et dans ces répressions de manifestations, des violences exercées à l'égard des journalistes, qu'il s'agisse de violences exercées par des forces de l'ordre ou de violences exercées par des manifestants. Et donc c'est pour ça que l'année dernière, la France avait un très très mauvais classement, que ça remonte tout simplement parce que les mouvements sociaux ayant un peu diminué ces derniers mois, il est possible qu'il y ait eu moins de signalements de faits auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Mais je dirais que c'est un peu un effet de coïncidence presque. C'est-à-dire que on progresse très peu en France sur des textes cadres qui permettent strictement de protéger l'information et de protéger ceux qui la portent. Les derniers progrès qui ont pu être faits en la matière, ça a été pour ceux qu'on appelait les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte qui sont bien souvent relayés par des journalistes. Il y a des très beaux projets collectifs qui sont à ce sujet, mais en termes de législation et d'application des textes, on est encore trop timide, je pense.
Moi, je suis estonienne. Et quand je suis arrivée en France, j'étais très, très étonnée par le fait que les plus grands journaux de ma région, dans l'est de la France, appartiennent au Crédit Mutuel, du coup, une banque. C'est ce qu'on appelle en français, je pense, c'est la concentration des médias. Et j'ai l'impression que cette pratique est assez courante en France. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une pratique qui, effectivement, a, j'allais dire, toujours existé, puisque dans le métier. Alors, je n'ai que 38 ans, mais des collègues en parlent et on nous parlait à l'époque de Hersant, du papivore. Donc, on était sur une entreprise privée qui dévorait, rachetait tous les journaux papier de France, voire d'outre-mer qui pouvaient exister. Il y a toujours eu cette fâcheuse tendance de très riches à vouloir posséder les médias, qui est effectivement, j'allais dire, instinctif pour eux, puisque qui contrôlent l'information, contrôlent la manière dont elle circule, ce qu'on en dit, et donc c'est assez logique pour eux en matière capitalistique. Donc voilà. Sur la manière de lutter contre ça, c'est extrêmement difficile parce que les attaques sur les journaux ou les rachats de journaux se font de manière assez éparpillée. On a quand même une particularité en plus en France qui fait que quand un journal est racheté, un journaliste peut opposer sa clause de cession, c'est-à-dire qu'il peut quitter la rédaction quand il y a un nouvel actionnaire qui arrive. Donc il y a des très beaux combats qui peuvent être menés, mais qui parfois aussi s'achèvent avec des départs de journalistes. Et il faut retrouver des rédactions à mobiliser, des choses comme ça. Parfois, ça s'est passé de manière tellement radicale que les journalistes n'ont pas eu d'autre choix que de partir. Donc pour organiser ensuite la résistance en interne, ça devient bien plus compliqué. Enfin, je pense à deux combats, notamment celui de iTélé à l'époque, avant que cela ne soit transformé en CNews, et puis plus récemment celui d'Europe 1.
Alors on va peut-être avoir aussi un autre point de vue, parce que avec ces trois jeunes qui sont là, Alpha, Mohamed et Mamadou, on a interviewé hier un journaliste afghan, Mortaza Beboudi, qui a donc fui l'Afghanistan et qui nous parlait de la liberté de la presse. Est-ce que Alpha, je te vois prendre des notes, est-ce que tu as déjà des questions pour Azilis, ou alors il faut peut-être attendre un peu. Est-ce que tu as déjà des questions pour Azilis? Tu veux qu'on parle un peu encore? Ok, bon, alors je reviendrai vers toi après. Mais peut-être par rapport, on va continuer cette discussion. Vous aviez évoqué le classement de RSF qui effectivement classe la France 26e. Donc même si c'est une progression apparemment par rapport à l'année dernière, on sort quand même d'un quinquennat qui a été, il me semble, assez violent, en tout cas pour les journalistes. On a eu les gilets jaunes, on a eu plusieurs crises, ouais. Et on a eu la loi de sécurité globale.
Ouais.
Est-ce que là, je crois que vous faites des propositions au gouvernement, le SNJ fait des propositions au gouvernement. Est-ce que c'est quelque chose, voilà, que vous portez, que vous dénoncez cette loi, même si elle n'est pas passée? Qu'est-ce que ça a provoqué dans le syndicat, cette loi?
C'est un séisme dans la profession, parce qu'effectivement l'un des articles de cette loi qui a été retiré mais qui réapparaît sous une forme un peu masquée dans la loi séparatisme, hein, d'ailleurs, ils viennent c'est que il était question effectivement de photographier ou de faire des prises de vue des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions.
C'est l'article 24 de la loi de sécurité.
C'est ça, c'était le fameux article 24 qui créait en plus une présupposition d'usage à but de nuisance systématique. C'est-à-dire que l'article de loi disait les forces de l'ordre, si je ne me trompe, hein, je suis plus exact sur les termes, mais en gros, ont le droit d'interpeller quelqu'un qu'ils prennent à les photographier ou à les filmer, parce que cette personne a l'intention néfaste de leur porter préjudice,
voilà,
en les dénonçant, etc. Ce qui est absurde, en fait, parce que déjà, c'est porter une intention à l'auteur d'un geste qui est fondamentalement garant d'une liberté première, en fait, en France et en démocratie. On peut faire des vidéos et prendre en photo, je dirais, ce que l'on veut. Enfin, y a, à l'exception de quelques sites militaires, enfin, de choses strictement définies, mais sinon, sur la voie publique, voilà. Et là, c'était mettre, mais qu'il s'agisse de journalistes, de citoyens, d'observateurs de la Ligue des droits de l'homme, hein, qui sont souvent en manifestation, dans cette position d'être auteur d'un délit de facto, parce qu'ils étaient en manifestation et qu'ils prenaient des photos ou faisaient des films. Et nous, forcément, ça nous a fait extrêmement réagir, parce que si à partir du moment où on posait cette condition-là de quelqu'un qui prend des photos ou fait un film dans un lieu public sur des forces de l'ordre, qu'est-ce qui empêche demain qu'on modifie l'article en disant qui est dans un lieu public, même s'il y a force de l'ordre ou pas. Enfin, voilà. Tout devenait prétexte à interpellation à partir du moment où on collectait quelque information que ce soit de manière audiovisuelle, voire en enregistrement sonore. Quoi.
Alors Mohamed, est-ce que tu as une question pour notre journaliste?
Oui, j'ai une question. Bonjour. Bonjour. Encore. J'aimerais savoir, puisque vous travaillez dans le domaine de... dans le cadre de la situation des journalistes quand ils ont un problème de salaire ou du temps de travail dans votre structure, est-ce que quand par exemple un journaliste de votre structure qui quitte dans votre pays en France, qui va ailleurs, par exemple au Mali, il y a un événement assez compliqué pour aller faire des filmages ou faire des photos et qu'ils subissent une arrestation, qu'est-ce que vous allez faire face à cette situation-là?
Face à cette situation-là, on se mobilise. D'ailleurs, on a tous une pensée pour...
Et Olivier Dubois, oui.
Merci. Voilà. Je craignais d'écorcher son nom de famille, mais Olivier Dubois, qui est actuellement otage, retenu au Mali. Donc c'est pour ça que votre question m'interpelle. On se bat, nous, en tant que syndicat, déjà auprès des directions, pour s'assurer que quand ils envoient des journalistes, ou que quand un journaliste travaille pour eux, il leur octroie des droits qui soient corrects, c'est-à-dire un salaire correct, mais aussi une assurance, un gilet pare-balles, un traducteur, des escortes de garde du corps si vraiment on est sur des terrains dangereux. Ça, déjà, c'est pas évident à obtenir de tous les médias. Et quand, par malheur, il doit arriver qu'un journaliste se fasse agresser, voire prendre en otage, là, c'est effectivement une mobilisation qui est à la fois symbolique, qui est à la fois médiatique. Forcément, la chance d'être dans un syndicat de journalistes, c'est qu'on a à peu près des notions de savoir comment contacter les médias et d'alerter sur une situation. Ça va être des contacts aussi avec le ministère des Affaires étrangères. Si jamais il y a... Là, pour Olivier Dubois, il y a un comité de soutien qui est formé. Donc, on ne va pas rentrer en... On ne veut pas leur couper l'herbe sous le pied, mais voilà, ça va être des multiples contacts comme ça, bien évidemment, pour tenter d'obtenir sa libération. Et plus les jours passant dans le cadre d'une prise d'otage, pour le garder en mémoire tout le temps, en fait.
D'accord. Ok, bonjour. Voilà, moi, ma question, j'aimerais savoir quelle est la lecture que vous faites, n'est-ce pas, par rapport aux journalistes qui... et exerce dans les pays où, n'est-ce pas, la liberté d'expression n'est pas totalement vue, n'est pas comme, n'est-ce pas, dans les pays où, comme la France ou les autres pays où la liberté d'expression est trop vue, quoi. Donc, j'aimerais savoir quelle lecture réellement faites-vous dans ces pays, parce que la fois dernière, avec, on a fait une interview, on a demandé une question à un journaliste afghan où il nous a affirmé que réellement qu'il a même perdu un de ses proches dans le domaine, quoi, dans le domaine du journalisme. Donc j'aimerais savoir la lecture que vous faites vous par rapport à ça.
La lecture qu'on fait de pays où la liberté de la presse n'est pas respectée, vous voulez dire?
Ouais.
Ah, ça c'est un sujet super intéressant où hélas, je ne vais pas être très compétente dans le sens où je suis journaliste locale. Donc, pouvoir expliquer exactement comment des collègues spécialisés dans l'international vont réussir à obtenir des informations dans un pays où la liberté de la presse est limitée, c'est complexe. Ça peut prendre plus de temps. Je pense qu'ils ont besoin tous de nouer des contacts sur place, autant que faire se peut d'aller vérifier sur place, de multiplier... les interviews, enfin, après il y a des bases dans notre métier qui reviennent et qui sont avoir une information, la vérifier et la recouper, toujours. Donc je dirais, quel que soit le pays d'où vient l'information, c'est une démarche à laquelle nous sommes obligés professionnellement, déontologiquement. Appréhender une information quand elle sort d'un pays où la liberté de la presse n'est pas respectée, il faut connaître la situation politique, du coup. Il faut connaître le contexte, se dire, ok, cette information nous parvient, de qui elle nous parvient. Pourquoi ? Comment ? Mais ceci dit, c'est aussi des questions qu'il faut se poser en France, finalement. C'est-à-dire que presque dans un pays où on sait que la liberté de la presse n'est pas respectée, on aura toujours l'idée de propagande en tête. Donc on va chercher à contextualiser, on va chercher à recouper, on va chercher à avoir d'autres sources. Les actions de communication, parfois, sur des actions de communication commerciales, politiques en France, on ne pensera pas à propagande, puisque tout le monde peut dire ce qu'il veut. En revanche, ça peut s'apparenter à ça si on ne réfléchit pas à d'où vient l'information, comment elle nous est donnée et comment on va la vérifier. Je ne sais pas si c'est...
Moi, du coup, j'aurais une question. Pour le coup, on va revenir en France. Puisque vous êtes, du coup, puisque vous faites partie d'un syndicat, j'aimerais savoir, en fait, par rapport aux jeunes qui, aujourd'hui, veulent devenir journalistes en France, on remarque qu'il y a une énorme concurrence, en fait. C'est très dur de rejoindre les rangs du journalisme aujourd'hui. Ce qui veut dire que beaucoup de jeunes sont prêts à accepter, en fait, de mauvaises conditions de travail, une certaine précarité. Et du coup, je me demandais si c'était quelque chose que vous observez, vous, en fait, en tant que syndicat, et aussi si ça avait peut-être une tendance aussi, enfin, un effet sur la liberté de la presse en France.
Sur la précarisation du métier, oui, on l'observe, ça c'est incontestable. Ça donne parfois des... Est-ce que j'arriverai à résumer ça en disant conflit générationnel, peut-être, peut-être en disant plus simplement que parfois nous, en tant que syndicat, donc personne syndiquée, on va se faire traiter de vieux con ou de vieille conne, parce que tu comprends, tu connais pas le métier et tu sais pas comment c'est dur. Si on en a bien conscience, pourquoi on peut nous dire tu sais pas ce que c'est, tu comprends pas comment c'est dur, c'est parce que les premiers à jouir de l'engouement pour le métier, c'est les patrons. C'est-à-dire que comme il y a énormément de monde qui veut faire ce métier, qui l'appelle énormément de vocation, c'est la foire d'empoigne pour avoir un boulot. Et donc, ils font baisser les prix et ils font baisser les conditions de travail. Et ça, c'est extrêmement dur à expliquer quand on a eu, par exemple, le phénomène depuis des années, hein, au moins une dizaine en France, de l'auto-entrepreneuriat, strictement dans les textes. L'auto-entrepreneuriat est interdit pour les journalistes. Point. C'est noir sur blanc, l'URSSAF le dit, tout le monde le dit, les patrons le savent. Quand vous avez un patron de presse qui vous dit « Ah, mais ils ne savaient pas », c'est faux, les patrons le savent. Donc, et pourquoi, du coup, quand quelqu'un vient nous voir en disant « Je suis auto-entrepreneur, j'ai pas le choix », et qu'on demande « Si, si, fais-toi payer en salaire », c'est parce que ça amène bien plus de garanties derrière, en fait, tout simplement. Donc, et cette précarisation, elle passe aussi par là. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne 30 euros en tant qu'auto-entrepreneur, il ne vient pas d'être salarié 30 euros de l'heure. Et c'est toute la différence, en fait. Parce que derrière, il n'y a pas d'assurance chômage qui tombe, il n'y a pas d'assurance retraite qui sont cotisées, etc. Enfin, donc, ça amène, par exemple, au moment du confinement, mars 2020.
Pardon. Et correspondants locaux, enfin, je pense aux correspondants locaux, parce qu'on a interviewé Loris Gamard qui a travaillé là-dessus.
Oui.
Bon, la presse quotidienne et régionale en vit beaucoup aussi des correspondants locaux.
Exactement. Exactement.
Alors, est-ce que ce modèle...
Bienvenue dans le paradoxe total. Oui. Le texte qui définit le rôle des CLP, des correspondants locaux de presse, commence par « Le correspondant local de presse n'est pas un journaliste ». Voilà. Il a été inventé...
C'est vieux, je crois.
Hein, 96. Par, à la suite de conflits, justement, de correspondants locaux de presse qui ont demandé leur reconnaissance en tant que journaliste salarié à la pige, en fait, qui ont fait valoir que, bonjour, j'arrive à 9h le matin au bureau, j'ouvre le bureau, j'écris les articles, je ferme le bureau le soir. Donc il va falloir, du jour où ces CLP-là ont fait reconnaître leur statut, les patrons ont eu un peu peur, et donc se sont dit, bon, on va inventer un statut pour le CLP qui dit, noir sur blanc, le CLP n'est pas un journaliste. Point. Il s'avère que, selon les journaux, il y a de plus ou moins grandes transgressions. En principe, et bien évidemment toujours en principe, le correspondant local de presse ne doit pas gagner doit avoir une autre source de revenus, en fait. C'est-à-dire que sa source de revenus principale ne doit pas être les articles qu'il écrit pour un journal. Donc nous, quand quelqu'un, par exemple, la Nouvelle République du Centre-Ouest veut être correspondant local de presse, on lui demande ses revenus. S'il n'en a pas, il ne peut pas être correspondant local de presse.
Bon, il y a beaucoup de PQR qui vivent aussi
bien sûr.
Sur les correspondants.
Ah non, puis ils fournissent 60 à 80%
du journal
local.
Ouais. Donc c'est un vrai problème aussi. Je vais passer la parole à Mamadou. Je crois que tu avais une question.
Oui, moi j'ai une question concernant le Mali. Le Mali a interdit RFI de faire le reportage au Mali. Je me demande la question là, parce que quand même moi, ça, nous les Africains, nous sommes choqués de ça, d'entendre que le Mali interdit le RFI, que la radio le plus écoutée en Afrique, pour exercer leur fonction de journalisme en Afrique. Je me demande comment vous avez pris des solutions pour ça, étant des journalistes.
Des solutions techniques, on n'en a pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un État décide de suspendre une autorisation de diffusion, enfin, techniquement, c'est eux qui ont le robinet. Ils ouvrent, ils ferment. RFI n'a pas grand-chose à faire, hormis continuer à se diffuser, par exemple, sur Internet et espérer qu'éventuellement, les gens aient un accès à Internet et un accès à des VPN pour qu'ils puissent accéder à cette information-là. Mais sinon, pareil, on peut se mobiliser en tant que profession pour dénoncer. C'est ce droit à l'information qui est coupé. Mais en termes de moyens, on n'a pas d'énormes moyens pour faire rétablir la diffusion de RFI au Mali. Ça dépend du gouvernement. Le gouvernement nous explique que... Il raconte de fausses informations et donc de ce fait, il s'autorise à couper cette radio.
Et quand on parle des différences entre différents pays quant à la liberté de la presse, en ce qui concerne les habitudes culturelles d'un pays, est-ce que ça a une importance aussi selon vous pour comprendre pourquoi il y a plus de liberté dans un pays et moins dans un autre ? Par exemple, l'importance du travail, la position des femmes dans la société. Où chez quelques cultures, on valorise le fait de dire les choses d'une manière détournée ou bien au contraire, comme aux États-Unis, on valorise le franc-parler. Est-ce que tout ça a un effet sur la liberté de la presse ?
Alors là, je suis un peu sans voix parce que c'est un biais que j'avais jamais, sur lequel je ne m'étais jamais posée en termes d'habitude d'échange et de biais culturels et sur le traitement journalistique du coup d'une information par différents biais. Je sais qu'il y a des écoles journalistiques différentes selon différents pays du monde. Enfin, on nous parle d'un journalisme anglo-saxon qui est très basé sur les faits, qui est très direct. Je sais par exemple qu'on nous racontait, moi déjà en école de journalisme à l'époque, que les journalistes étrangers étaient très choqués en arrivant dans les instances françaises, à l'Élysée notamment, sur des interviews présidentielles, ministérielles, de devoir présenter leurs questions. C'est quelque chose qui ne se faisait pas du tout dans leur pays. Ils vont interroger leurs élus. Les élus, leur président, leur premier ministre n'ont pas les questions à l'avance, éventuellement des thèmes à travailler, mais ça reste là. Donc c'est à peu près le seul élément de réponse que je peux apporter à ce sujet.
C'est déjà pas mal. Pardon. Merci.
Madame, revenant sur votre structure syndicale, est-ce que votre structure syndicale, ça se limite seulement à Tourville ou bien dans la région ou bien sur toute la France ?
C'est sur toute la France. Le syndicat est basé à Paris et a des adhérents dans toute la France et aussi en Outre-mer, parce qu'on avait une section à La Réunion, je ne sais plus. Après, il y a eu des journaux qui ont dû fermer sur Martinique et Guadeloupe. Mais oui, ça réunit des journalistes de tout le territoire, de tous les médias.
Alors là, moi, je vais toujours rebondir sur, n'est-ce pas, la liberté d'expression, quoi. Parce que dans la longueur des journées, on entend souvent, à plusieurs fois, parler de la liberté d'expression des journalistes. Donc, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il existe-t-il des tests, n'est-ce pas, concernant aux journalistes qui se permettent de sortir dans leur champ d'application. Je veux dire, les journalistes qui se permettent de dire de n'importe quoi. Est-ce qu'il existe, n'est-ce pas, des strictures ou bien des tests par rapport à ça, par rapport aux journalistes qui transgressent?
Est-ce qu'il y aurait un moyen ou un bureau qui déciderait du bon ou du mauvais journaliste ou du journaliste qui a fait bien son travail ou qui a mal fait son travail?
Oui.
Non, ce type de bureau n'existe pas. Le SNJ, notre syndicat, a fait partie, en revanche, de la création du Conseil de déontologie des médias, qui est un conseil, qui est juste un organe consultatif, qui réunit des syndicats de journalistes, des associations, des citoyens, et qui peut être saisi de cas, de reportages écrits, télévisuels, radio, de personnes qui disent « j'estime que la déontologie du métier n'a pas été respectée dans ce cadre-là pour telle et telle raison ». Et le CDJM rend dans ces cas-là des avis. On reste sur le côté avis, sur une production journalistique. Nous, on a le positionnement en tant que syndicat. On est tous salariés, qu'on a des patrons, et qu'on ne va pas commencer à se juger et surtout à se sanctionner entre salariés. Ce n'est pas notre rôle. En revanche, participer au CDJM, ça nous permet d'avancer des critiques éventuelles d'une production faite et d'interpeller éventuellement la direction du média en question en disant « attention, veillez à ce que votre rédaction respecte ces principes déontologiques avant d'écrire ou avant d'être à la télé, etc. » Sur le fait qu'on puisse, par exemple, entendre à la télé ou à la radio des journalistes dire que, moi, là où j'ai un problème, et puis je ne suis pas à l'intérieur de ces médias-là, on va parler des plateaux de télé, pour être très clair, je ne sais pas qui est journaliste et qui ne l'est pas. La loi, le code du travail définit un journaliste par sa carte de presse, mais après, des commentateurs, il y en a énormément.
Éditorialistes,
ouais. Les éditorialistes. Paradoxalement, les éditorialistes peuvent être journalistes s'ils ont effectivement un contrat de journaliste avec la chaîne télé. Ça, c'est très français. Pour le coup, on parlait des spécificités. Peut-être le commentaire est très, très français. Mais sinon, il y en a beaucoup qui... On peut dire le journaliste un tel, et en fait, a priori, ce n'est pas un journaliste. C'est un animateur télé, c'est un polémiste, mais ce n'est pas quelqu'un qui a un contrat de journaliste, même si c'est une chaîne d'information continue. Par exemple.
Parce que là, pourquoi j'ai posé cette question ? Parce que dans mon pays, en Guinée, très souvent, les journalistes se permettent, n'est-ce pas, de dire même ce qui est interdit par la loi ou bien ce qui est interdit par le gouvernement. Parce que là, il y a une, je ne sais pas si c'est une organisation ou si c'est, on dit du nom hack. J'ai oublié même la définition, quoi. Donc la hack, elle a pour rôle, n'est-ce pas, pour être entre l'intermédiaire des journalistes avec, n'est-ce pas, les autres, c'est parti, c'est acteur civique, quoi. Il est entre les deux, quoi. Si un journaliste, n'est-ce pas, transgresse les lois du journalisme, c'est la hack qui doit, n'est-ce pas, interpeller la personne ou bien interpeller le média où il exerce, ils vont lui dire qu'il a fait telle chose maintenant, ils vont le sanctionner ou...
D'accord. Je serais super intéressée par voir ce que c'est, si c'est une autorité justement, mais qui dépend du gouvernement. Si du coup, s'il est sanctionné sur des propos politiques ou sur des informations qu'il va donner et que le gouvernement ne considère pas juste, mais parce qu'on est dans un combat de communication, c'est-à-dire que le journaliste dit si j'ai été chercher, c'est 124 et que le gouvernement dit vous mentez, c'est 100. J'en sais rien, justement. Je serais très curieuse de savoir ce qu'est cette organisation-là.
Est-ce que ça dépend du gouvernement, cette organisation, tu sais ou pas ?
Non, l'organisation, là, c'est pas gouvernemental. C'est, okay. C'est pas si c'est... Eux, ils œuvrent dans le domaine du journalisme, oui. Quoi. C'est comme si c'est eux qui... C'est comme si c'est des... Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est des... Des structures qui défendent les journalistes, quoi.
Comme des syndicats.
Comme des syndicats, voilà. Par exemple, quoi. Mais on dit hack, j'ai oublié la définition, quoi. Je sais pas si mon ami là se rappelle de ça.
moi, je voudrais aussi vous poser une question concernant sur votre organisation. Quand un journaliste va au-delà de la déontologie, c'est-à-dire que là où il doit se limiter, il dépasse la limite là, est-ce qu'il est sanctionné ? Et si il est sanctionné, quelles sont les sanctions qu'il peut se procurer ?
Deux sanctions possibles pour un journaliste. La sanction de son employeur, la sanction de la loi sur la liberté de la presse, dite loi de 1881. La sanction de son employeur, c'est s'il outrepasse, si son employeur estime qu'il a commis une faute lourde ou une faute grave dans le cadre de... Pardon, je croyais que j'ai renversé toute ma table. Dans le cadre de sa fonction de journaliste. Ça, là, on est dans le cadre du droit du travail. Il faut que la faute soit prouvée par l'employeur, etc. De genre, tu devais venir présenter un journal à midi, t'es jamais venu. Faute grave. Sur le côté déontologique, on sait, pour ne pas le nommer, Patrick Poivre d'Arvor a été l'auteur d'une très célèbre interview de Fidel Castro qui était entièrement caviardé. Ça s'est su.
C'est passé un peu inaperçu quand même.
À l'époque, que, oui. De manière assez étonnante. Et
aujourd'hui, ça ressort parce qu'il y a d'autres affaires qui, sont, ouais, alors, qui ressortent. Mais je trouve qu'à l'époque, c'est un peu quand même passé. Enfin, moi, ouais. Dans ma tête, Patrick Poivre d'Arvor, oui. Avant les affaires qui viennent de sortir récemment, Fidel Castro, en fait, je l'avais un peu zappé cette affaire.
Ouais. C'est quand même est-ce qu'elle est restée un peu dans des milieux, enfin, je dirais confinée ouais, peut-être, à la presse
ouais, c'est possible qu'elle soit quand
genre,
même restée.
Genre,
ouais.
Vous avez heurté, alors qu'aujourd'hui, effectivement, vu.
En tout cas, le grand public, oui, ça n'a peut-être pas marqué de la même manière.
Du tout, non. C'était. Oui, bon, ça va, c'était pas compliqué quand même. Enfin, il n'y avait rien de grave. Ce qui était. Et il a jamais eu de soucis. Et enfin, il y a la justice. Où là, c'est s'il y a. De la part du journaliste, un manquement à la déontologie, ça veut dire qu'il peut avoir insulté, appelé à la haine en raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de la race, de la religion, etc. Et donc là, c'est même les personnes insultées, incriminées, etc., qui vont porter plainte devant les tribunaux pour insultes, diffamation, appel à la haine. Voilà. Et donc là, qu'un journaliste condamné par la justice ne va pas forcément être licencié, par contre, ne va pas forcément quitter son antenne. Ça, c'est la décision de l'employeur.
Et d'ailleurs, alors c'est un peu plus précis, mais ça me fait penser à la loi Bloch qui date de 2016. C'est une loi qui avait quand même changé quelque chose dans le journalisme, puisqu'elle pointait le fait que l'entreprise de presse, en fait, pouvait, si le journaliste avait un manquement déontologique à la charte de l'entreprise, ouais. Voilà, mais la charte de l'entreprise, hein, pas du journalisme, voilà, la charte de l'entreprise, ben, il pouvait être sanctionné. Or, je crois qu'avant, c'était le directeur de publication qui était responsable, en fait, devant l'entreprise. Ça a vraiment changé ouais. Quelque chose, ça, en fait.
J'allais dire oui et non, parce qu'en fait, la loi Bloch est tellement peu contraignante que clairement, aujourd'hui, chaque rédaction est censée avoir une charte déontologique. On ne les a pas. Enfin, d'accord. Clairement, nous, à l'ANR, on n'a pas signé de charte déontologique. Nous, du côté des élus SNJ, on est assez clair, puisqu'on a notre charte déontologique du SNJ qui existe depuis 1918. Donc, quand notre patron nous demande quelle charte on veut adopter, on l'a. Hein. Elle est simple, elle est claire. Et c'est le cas d'énormément de rédactions, en fait. Il n'y a pas de charte, il n'y a pas de réflexion sur la déontologie, etc. Donc, ça aurait pu amener à quelque chose si elle avait contraint à quoi que ce soit, en fait. Mais là, il n'y en a pas.
Écoutez, est-ce que vous avez encore quelques questions tous autour de la table avant de libérer notre intervenant ?
Moi, j'ai une dernière question. Juste pour rebondir sur les solutions. Vous en avez déjà parlé un petit peu, mais juste pour souligner les solutions, justement, les pays qui se trouvent en haut du classement de RSF, que pourrait-on vraiment apprendre en France de ces pays-là ?
Je crois qu'il y a l'Estonie, hein, qui est à 4e place, voilà. Voilà. Elle prêche pour sa chapelle.
Ouais, mais je comprends, il y a l'Estonie. Je crois que les pays scandinaves font partie de sans vouloir, des premiers hein, du classement en termes de liberté de la presse. Alors paradoxalement, je sais aussi que dans ces pays-là, la presse écrite et la presse en général continue d'être extrêmement lue et achetée. Et la corrélation entre liberté de la presse et le fait qu'elle soit lue est extrêmement forte. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des enjeux économiques qui sont en place. Vous avez aussi sur ces pays-là des autorégulations et des surveillances de la vie publique qui sont extrêmement strictes et transparentes, ce qui est moins le cas en France, avec du coup un enjeu de pression économique qui va se faire et qui du coup rend d'autant plus difficile cette liberté d'expression des journalistes. Enfin, dernier exemple en date, qui est l'accord, je vais encore dire une bêtise, veuillez m'excuser, l'accord financier, si je me trompe, de Bernard Arnault au sujet de Fakir et de François Ruffin, qui ils ont prouvé, LVMH a s'est prouvé à espionner Fakir, à espionner Jean, et sauf qu'ils s'en sortent avec une amende en fait, sans jugement, et parce que là effectivement on est face à des négociations qui sont pas illégales, mais qui, parce qu'elles représentent un tel poids financier, ont pu se dérouler. Et cette indépendance là par rapport à des poids financiers, en France on ne l'a pas encore. Et tant qu'on n'aura pas ça, tant qu'on n'établira pas des boucliers stricts entre des poids financiers, des pressions financières et économiques les corrélations politiques et l'exercice du journalisme, on aura des problèmes récurrents, à mon humble avis.
Est-ce que je vous laisse une dernière question ou ça est tout posé?
C'est presque fini.
Bon, oui, bah écoutez.
J'ai une toute petite question.
Vas-y.
Madame, pourquoi en France ici maintenant, la loi dit que l'exercice des journalistes lors des manifestations, et que les journalistes sont interdits de filmer. Je voulais vous demander juste pour ça.
C'est la loi sécurité globale, cette loi qui voulait nous interdire de filmer et de photographier en manif, c'est ça?
Oui.
Ouais, c'était effectivement ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est qu'on prête à toute personne qui va prendre des photos, faire des films, une intention néfaste en fait. Et c'est là où, insidieusement, on parlait de liberté de la presse et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer. On inscrit dans la tête des gens depuis plusieurs années que, en gros, s'intéresser à certains types de sujets, c'est pourquoi vous vous intéressez à ça. Et en gros, pourquoi vous voulez nous nuire? C'est-à-dire que dès qu'on va aller creuser un sujet, mais qu'il s'agisse d'aller... Là, c'est le ministère de l'Intérieur estimait que si on photographiait ces forces de l'ordre en exercice, c'était forcément pour nuire à l'homme ou à la femme qui était derrière l'uniforme. Pas du tout. On documente un fait d'actualité qui se déroule. Si dans ce fait d'actualité, il se trouve qu'en plus... il y a des violences policières, comme il y en avait pu en avoir dans les précédents mois, on le dit. Quand il n'y en a pas, ou quand les forces de l'ordre sont victimes de coups, on le dit aussi, enfin, les images le montrent. Donc voilà. Et c'est insinuer cette idée qu'il faudrait avoir le droit, un droit tacite donné par le ministère, par le politique, par l'économique, d'aller enquêter sur tel ou tel sujet. En fait, implicitement, c'est ça que ça sous-entend. C'est-à-dire que quand on nous coupe des biais d'enquête, de manière de réaliser notre travail, c'est peu à peu restreindre notre champ d'action, notre champ de réflexion. Donc voilà. Et ça rentre après, en plus, dans, à mon humble avis, sur des champs où on s'auto-censure. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais même plus aller traiter ce sujet-là, parce que c'est impossible, puisqu'on ne me répond pas, parce que ce serait interdit, ce serait contre la loi, etc. Or, aujourd'hui, il y a très peu de choses sur lesquelles on n'a pas le droit d'enquêter, en fait.
Eh ben, merci à tous d'être passés sous le micro de Radio Campus Tour, excusez-moi. Je suis fatigué en cette fin de journée. Et puis, bah, merci donc aussi à Elena et Salomé qui sont intervenus.
Merci à tous.
Merci.